Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, c'est parti, le super Moscato Show. Il est 15h07. On est sur RMC.
Et oui,
on bosse, oui. On bosse. Tous les jours de 15h à 18h. Vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter avec le Stifounet. Brin, oui. Comment il va?
Salut Vin, ça va?
Ça va, t'es en forme ou quoi?
Ouais, je suis en pleine forme. J'ai tellement bien dormi parce qu'on a fait un duo Kikadi hier exceptionnel. C'est un binôme complémentaire. Ouais. Main dans la main. Ton pied, mon pied, Vincent. On est. Ouais. C'est exceptionnel.
Ça, c'est plutôt mon pied dans le truc. Sinon,
oui. C'était ma main sur ta. Ouais.
Il est pour la retraite à 64 ans, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il commence à bosser. Il est avec nous.
Alors là, écoute, comment il va? S'il y en a un qui a bossé dans sa vie de nous tous, c'est moi. Hein. Franchement.
C'est nouveau, ça. C'est gratuit. Ouais.
Moi, j'ai commencé. Oh, moi, tu sais quoi? Je suis à 44 au moins année, là. Ouais, j'ai commencé ma première paye. J'ai
dû 16 ans. Non.
Ma première paye d'aspirant, j'ai retrouvé en fouillant dans les vieux papiers de mes parents. Ma première feuille de paye, 650 euros. Eric. 650 francs, exactement. Ouais,
on parle de travail, Eric.
Quoi?
Et puis surtout, vrai boulot.
Il y avait vraiment des fiches de paye à l'époque avec Bernard.
Parce que si tu comptes les feuilles de paye,
c'était pas lui.
Les feuilles de paye, moi aussi, j'allais des caisses entières. Tu comptes pas la mairie de Marseille aussi avec Audin quand même.
Ma foi, bien sûr.
Parce que moi, je compte pas quoi tout autrement.
Mais dis-moi, tu sais que j'ai une bonne nouvelle quand même à t'adresser. Et Clo-Clo est pas mort. Hein.
Non.
Ah, je l'ai raconté hier soir.
C'est vrai?
Ah ouais, à l'opéra de Marseille. Là, il était là, à l'entrée, Clo-Clo. Donc je le salue parce que je croyais qu'il était mort, Clo-Clo, moi. Et non, il est toujours là, en forme. Voilà.
Merci Eric, on enchaîne. C'est quoi alors? Dis-moi, ça c'est un.
La chute, il y a une chute, il n'y a pas de chute. Y a pas de...
Hier soir, j'ai raconté un auditeur du Moscato Show qui s'appelle Clo-Clo.
Voilà,
donc je lui ai dit.
Fred me dit ça intéresse deux personnes, Eric et Clo-Clo. Merci Eric. Question moyenne du jour.
Attention. Tous les fans de Clo-Clo aussi sont contents.
Claudette. Après, quand même, Eric, on parlera de ces nouvelles règles que tu veux quand même imposer dans ce nouveau jeu.
De ce qui a dit.
Moi, j'ai juste à dire.
C'est trop brouillon là. 15h09, Vincent. L'émission démarre. Adrien. Question moyenne, Adrien.
Question moyenne. Comme la presse locale l'a suggéré, en tout cas, la dépêche du ministre s'est interrogée sur le sujet hier. J'en appelle à la France du Moscato Show.
C'est vrai.
Selon vous, Vincent Moscato est-il anti-Toulousain? On met les pieds dans le plat dans le Moscato Show aujourd'hui. C'est une question moyenne. D'ailleurs, Pierrot, on a pris des dispositions. C'est-à-dire que, antenne ouverte, 32-16. Si vous êtes Toulousain, vous considérez que Vincent est anti-Toulousain, on vous prend à n'importe quel moment de l'émission. Alors, c'est alerte rouge. Vous adressez à Vincent. Vous expliquez pourquoi.
Alors aujourd'hui, c'est anti-Toulousain. Est-ce que demain, on pourra faire? Est-ce qu'il est anti Clermont?
Non, justement. Clermont, ça compte pas parce que ça, on sait
ça,
qu'il est
anti-Toulousain. C'est acté.
C'est qu'il reste des coups qui passent. Toulouse, il y a un doute puisque t'es né à combien de kilomètres de Toulouse?
Là, je suis pas né, mais j'ai
été. Ah non, t'es né à Paris, mais t'as été élevé à Gaillac, 40 kilomètres.
Ouais.
Donc il y a un doute.
Alors,
mais dans le Tarn.
Selon vous, Vincent Moscato est-il anti-Toulousain? Oui, non. C'est très binaire comme question.
Je me défends, rien.
Il y a une réponse à 79% pour le moment.
Mais avec des arguments. Vous venez avec des arguments si vous voulez en parler à l'antenne.
Non, mais tu veux savoir la réponse à 79%?
Et là, les votes, c'est parti très fort. Hein. Sur les standards, là, c'est parti de folie.
Et alors?
Pour vous, à 80% à l'instant. Vincent Moscato est officiellement anti-Toulousain. On vous appelle au 32-16.
Ça commence à s'entendre.
Non, arrêtez,
hein.
Les gars, j'étais ça, moi, rempli en la restitution. Je répète que le 32 mars, je serai quand même au Casino Barrière.
À sa décharge,
je l'ai vu fredonner une chanson de Big Flo et Oli tout à l'heure en arrivant à la
Le programme de l'après-midi jusqu'à 18h dans le Super Moscato Show sur RMC, le Mercato, les derniers mouvements, Paris, Lyon, Marseille. Ce Mercato d'hiver peut-il changer leur saison? À 16h, le rugby, tournoi destination, question importante, Vincent. L'Italie peut-elle de nouveau battre la France? Vincent règle le problème sur RMC, c'est arrivé 3 fois dans l'histoire. Seulement 3 fois. Et puis à 17h, Jean-Michel Aulas peut-il avoir un patron? Nous entendrons le patron, le nouveau patron de l'Olympique Lyonnais, qui n'est donc plus Jean-Michel Aulas. Le programme d'Apostrophe Adrien à 15h45.
Alors je savais, Vincent, qu'il y avait des castings organisés pour les acteurs. Tu en as passé beaucoup, avec succès d'ailleurs. Mais j'ai appris qu'il y a des castings pour les réalisateurs de cinéma. Pas facile hein, d'avoir de gros budgets. Des réalisateurs de cinéma passent des castings pour réaliser de grands films. Et ton micro ne marche plus. Voilà. On démarre sur de très bas. Et là, ton micro marche.
Là, il marche.
Ouais, ouais, c'est fou,
c'est bizarre. Il était meilleur quand le micro marchait pas. C'est
dans le Kikadi, on a un très beau cadeau à vous offrir. Vos vacances VVF d'une semaine pour 4 personnes en pension complète. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Mais tout de suite, c'est bientôt la fermeture du marché.
RMC, le Super Moscato Show.
Un mardi comme les autres, au marché aux bestiaux de l'Essac.
Alors qu'est-ce qu'elle a dit la petite dame?
Et coronavirus ou pas, on s'agglutine, on se touche, on se parle à l'oreille.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
En temps normal, l'Italie est le premier débouché étranger du marché de l'élevage.
Il y a une ambiance, les fétous, pas les fétous, les tifos.
Les tifos. Dans la salle de cotation, c'est l'incertitude qui règne.
Même si la course était...
Les éleveurs redoutent une baisse de la demande qui entraînerait une baisse des prix.
Et toi, tu continues encore en 2 ans, parce que là, c'est cette année, c'est notre truc.
Ce matin, les négociants sont restés prudents.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
Mais là, c'est pas grave. Breaking
news. Donc, le mercato qui se termine ce soir. Ce qu'on fait quand à 23h. Hein. Lyon, Marseille, Paris, trois clubs, trois problématiques totalement différentes. Marseille s'était renforcé un groupe qui fonctionne. Lyon, tout changé pour rebondir. Et puis Paris. Non. Trouver les joueurs qui vont combler les carences ponctuellement et à court terme. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Ce mercato peut-il changer la saison de ces trois clubs? On va faire le point avec Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Ah, salut à tous.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et Marseille a trouvé son buteur. Il s'agit de Vitinha, l'attaquant de Braga, pour un montant record dans l'histoire du club.
Oui, effectivement, on parle d'un petit peu plus de 30 millions d'euros. Accord de principe donc entre l'OM et Braga pour l'attaquant Vitinha. Pourtant hier, Brighton, le club anglais, pensait l'affaire conclue. Les Anglais ont mis 30 millions d'euros sur la table, c'est le montant de la clause de Vitinha, mais le Portugais de 22 ans a fait son choix. Contrairement à Thuram Mofi, il veut absolument rejoindre l'Olympique de Marseille. Face à cette détermination, Pablo Longoria a donc décidé de faire un effort et prépare le montage suivant. Un petit peu plus de 30 millions d'euros échelonnés sur les 5 ans et demi de contrat. Le joueur devrait arriver en fin d'après-midi.
Pour le PSG, il n'y aura pas de défenseur central. En revanche, le remplaçant de Sarabia sera Ziyech.
Oui, effectivement. Alors, pour le défenseur central, on va quand même attendre hein, la clôture de ce mercato. C'est 23h. Paris va tout tenter pour essayer de récupérer Milan Skriniar, même si on est de moins en moins confiant. Parce que l'Inter veut non seulement 15 millions d'euros avec bonus, mais l'Inter veut aussi avoir trouvé un remplaçant à Milan Skriniar. Donc cette piste a du plomb dans l'aile. Et puis tu le disais, Pierrot, Hakim Ziyech, effectivement, il patiente en salle d'attente. Il est arrivé à Paris, le joueur de Chelsea. Il a passé sa visite médicale ce midi, prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais il patiente et attend que le Paris Saint-Germain et Chelsea trouvent un accord.
Et puis donc à Lyon, le grand ménage se termine.
Effectivement, après les départs en prêt de Karl Toko Ekambi, Tété Fèvre et Jeffrey Adélaïde, Lyon espère encore dégraisser, avec notamment Moussa Dembélé et Oussem Aouar. Ils arrivent en fin de contrat à l'été prochain et forcément on aimerait qu'ils trouvent une porte de sortie, mais pour l'instant les deux joueurs aimeraient plutôt rester à la maison.
Alors ce mercato peut-il changer la saison de ces trois clubs?
Donc, d'abord, bravo pour ce binôme là. Pam, ça relance.
Tu peux louer les deux ans.
Ah oui, c'est ça.
Alors, je sais que ça vous étonne dans une émission où on comprend rien quand les gens parlent, mais c'est comme ça qu'on fait de la radio normalement. Hein.
C'est une fois dans l'année. Bravo, Pierrot.
Vous nous avez régalé. Alors, c'est du très haut niveau. Bravo.
T'as entendu. Donc, l'OM a trouvé un buteur, 30 millions. Donc, c'est une vraie recrue. C'est pas une recrue de complément. Paris, ça ressemble plus à du complément avec Ziyech, même si Ziyech est un joueur quand même de haut niveau, en difficulté à Chelsea. Et puis, Lyon, là, on essaye de changer un maximum de choses. Est-ce que ce mercato peut sauver ou changer le cours de la saison de ces trois clubs-là?
Ça n'a jamais bougé.
Tu dis non.
Mais non, mais le mercato, ça n'a jamais fait évoluer quoi que ce soit. Les mecs qui ont vendu souvent sont plus pauvres. Les mecs qui ont acheté restent au même niveau, voire moins bien. Parce que c'est dur de s'intégrer dans un club. Probablement, c'est dur aussi vite. C'est-à-dire que le mec, il arrive le mercredi, il joue le samedi. Tu crois pas, toi, qu'il va marquer 3 buts? Ça a dû arriver. Alors vous allez me dire, oui,
il y a un machin.
En 88 ou un autre, en 2006. Il y a toujours des contre-exemples. Mais non, ça change jamais rien. C'est-à-dire qu'un club qui recrute, mettons qu'ils, s'ils sont, mettons, huitième au championnat, ils passent pas quatrième ou troisième. Ça les fait pas monter sur le podium, tu vois. Du tout. Ça équilibre.
Parce que là, l'OM se prend un buteur, ça peut pas les aider à gagner un titre.
Si, ça peut les, mais je te dis pas ça. Ça peut de temps en temps les aider.
C'est pas du 100% de réussite.
C'est très rare que ça fasse. Alors, j'espère pour l'OM que ce que je dis, ça sera le contraire et que ça les fera progresser, que ça les fera monter vraiment sur le podium et peut-être sur la plus haute marche du podium. Tu vois, on sait jamais. Mais j'y crois pas. J'y crois pas vraiment.
Ziyech, t'y crois pas non plus?
Ziyech, ça manquait d'attaquants, c'est vrai, au PSG. Non, mais là,
ce profil.
Non, mais là, faut quand même en parler, là. Faut dire, c'est de la gabegie, là. C'est-à-dire que c'est n'importe qui c'est qui recrute, là. Qui recrute?
Campos.
Ah ouais, mais là, ils prennent, là, non? Ah, parce que quand tu reprennes encore un attaquant, c'est quand même, c'est gros, parce que c'est eux qui se coûtent le plus cher, comme ils coûtent.
Là, il est en prêt.
Il est en prêt, mais c'est quand même, sinon, il n'y a pas de logique.
Eux, il y a des commissions sur les salaires. Non,
ils sont tous intéressés, ils se font passer les mecs. Autrement, tu vas pas chercher Ziyech. Ils sont tous intéressés, ils y vont tous à croquer, là. L'argent de l'émir, il est bon, je te le dis, moi. C'est pas possible. Tu peux pas recruter tout le monde de gueule, qui a pas d'équipe, qui a pas de défenseur, les mecs. Oh, il y a un mec qui arrive, un attaquant.
Beaucoup de supporters se disent, comment vous blasez le PSG? Je l'ai entendu. Ziyech, c'est Di Maria en moins fort. Di Maria que tu as laissé partir il y a 6 mois.
Oui, mais ça fait partie du truc. C'est le barnum, tout le monde croque sur tout le monde. Là, c'est la grosse gabegie, je te le dis, parce que tu peux pas faire. Si t'es à ce niveau de championnat, en Champions League, footballistiquement, tu ne peux pas prendre un autre attaquant. Même moi qui comprends que dalle, je prends pas un attaquant au PSG. Mais même Stephen qui comprend rien au foot, le prendrait pas.
Même il comprend rien au basket, il sait qu'il ne faut pas prendre Ziyech à Paris.
On me regarde pas comme ça, toi.
Je vais laisser parler Eric qui va nous parler de Ziyech.
Même Eric qui se dit qu'il aurait bien pris l'OM, Eric.
Mais c'est
Lyon, même, juste un mot Lyon qui change beaucoup pour le coup.
Il prend des joueurs qu'on connaît absolument pas. Non, mais tant pis, tu refais.
Un joueur aux Pays-Bas, un autre au Brésil.
C'est quoi? Il se coupe un doigt, voire deux, plutôt de se couper la main.
On sait jamais. Si des fois que ça repousse.
Oui, parce que des fois ça repousse. Même les dents, ça repousse. Écoute-moi, non, mais tu sais pas, il veut faire du vide pour l'an prochain.
Donc,
il prépare
le seul
prochain.
Club Lyon, qui dit peut-être ça sera quelque chose, c'est Lyon.
Mais oui, parce qu'ils sont nuls. Donc, automatiquement, il prend pas. Moi, je trouve que c'est bien joué de Laurent Blanc. Il se vide le vestiaire des meubles.
Le coup de fouet, quoi.
Le coup de fouet.
De toute façon, là, ils sont top 3 à la rue.
De toute façon, ils sont tous nuls. Donc, qu'il en prenne un machin, qu'il prenne Toto ou.
Aouar et Dembélé pour l'instant ne veulent pas entendre parler des pistes qu'ils ont, hein, donc ils vont rester jusqu'à la fin de saison et ils seront libres. Eric, Paris, Lyon, Marseille, est-ce que ça te semble possible de changer la saison avec ce mercato?
Il faut dissocier les trois. Vincent a commencé à le faire. Lyon, on a compris, ils veulent repartir d'une page blanche. Lolo a expliqué Blanc qu'il sentait qu'il y avait des joueurs qui étaient plus heureux au club, qui étaient là parce qu'ils ont un beau contrat. Il veut faire partir ces garçons-là, en prendre des nouveaux qui ont approuvé, peut-être même sur un projet dans un premier temps un petit peu moins ambitieux que normalement devrait avoir Lyon, et ça peut pas leur faire de mal d'essayer de partir dans cette direction-là vu ce qui se passe ces derniers temps. L'OM finalement, ça, d'après moi, ça a pas changé grand-chose parce que y a une équipe qui tourne bien, qui a même un 11 pratiquement identifié, et tu as des garçons qui vont venir. Alors c'est pas des joueurs d'appoint parce qu'en réalité c'est des titulaires en puissance, mais il va falloir qu'ils gagnent leur place. Donc si ils jouent ces joueurs-là, l'avant-centre là, je sais pas trop, mais on parle de Naï qu'on a vu à Angers, qu'on a vu surtout à la Coupe du Monde. Il gagne sa place, il va apporter un vrai plus puisque ça tourne bien au milieu de terrain. Mais ça va pas transformer l'équipe. Par contre, ça peut permettre dans une rotation quand il y a un match tous les trois jours, comme là cette semaine, je sais pas s'il pourra jouer d'ailleurs cette semaine, le petit Unai. Mais ça peut faire du bien. Et après Paris. Paris, on est toujours dans l'expectative, dans le sens où tu prends des mecs pour aller sur le banc. Donc, dans quel état ils vont être psychologiquement et physiquement quand il va falloir jouer. C'est-à-dire le même problème que ceux qui sont partis, parce que ceux qui sont partis, tu le disais hier, Pierrot, quand ils jouaient dans leur club, c'était des bons joueurs. Voilà, puis après le problème c'est qu'arrivé là, quand tu joues moins souvent, quand, ton jeu c'est il faut donner la balle à Messi, il faut donner la balle à Mbappé, il faut donner la balle à Neymar, parce que si tu veux jouer le vrai jeu, c'est-à-dire des fois tu c'est pas possible, tu te fais tirer les oreilles, donc là j'avoue je reste un peu on va voir ce que ça va donner, mais Adrien l'a dit magnifiquement, tu fais partir Di Maria,
c'est le même,
qui était énorme, et on l'a vu finale de Coupe du Monde, c'est lui qui fait gagner les Argentins, enfin Camille Le Turbin à l'équipe de France sur le temps fort de l'Argentine qui a duré un long moment d'ailleurs.
C'est surtout que
c'est lui qui fait la misère.
Il voit son mec là.
Voilà, c'est ça, le premier, le penalty. Bon, enfin, et tu prends le même profil, hein, oui, pour le moment, un peu moins fort, dans le sens où il a moins prouvé que Di Maria.
Les Argentins qui sont revenus en France, ils font la différence en club. C'est de leur club.
Mais là où Vincent a raison, et après je laisse Steve, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup d'équipes depuis que le mercato d'hiver existe. Beaucoup d'équipes transformées. Alors après, il y a des équipes qui font des bons coups et qui apportent beaucoup au
saison d'après, c'est bon.
Mais des équipes transformées sur un mercato d'hiver, j'ai pas souvenir.
Après des petites équipes peut-être qui font venir un gros coup. On pense à Nantes, que Delors qui arrive, peut-être que Delors va faire du bien à Nantes et Nantes va remonter au classement. Mais des équipes qui sont déjà tout en haut, comme c'est l'OM et comme le PSG. Mmh. Même si l'OM, j'aime bien Eric a oublié d'en parler, mais Malinovski s'est quand même tout de suite imposé avec Tudor au milieu, puisqu'il était titulaire lors du dernier match contre Monaco. Il a été plutôt correct, Eric Malinovski.
Ouais, mais je pense qu'il peut faire beaucoup mieux pour l'OM. Oui,
Après, dans un jeu qui est très énergivore de Tudor, c'est quand même bien d'avoir des mecs, des bons joueurs et d'avoir du monde au milieu. Après, pour le Paris Saint-Germain, Ziyech, c'est-à-dire que Ziyech, il était un petit peu chafouin parce qu'il jouait pas à Chelsea. Ouais. Il arrive au Paris Saint-Germain. Ouais. Expliquez-moi qui Galtier va mettre sur le banc pour donner du temps de jeu à Ziyech sur des gros matchs.
Mais personne.
Personne. Donc sauf que là, avant Ziyech, on a fait partir. Avant, on a fait partir Pablo Sarabia, qui avait le rôle de Ziyech, c'est-à-dire bon, il jouait jamais, bon, il faisait pas la gueule tout le temps. Quand il rentrait sur le terrain, mais il était pas très bon. Sauf que Ziyech, Sarabia, c'est pas le même statut. Ziyech, je suis pas sûr qu'il se contente de 5 minutes de temps en temps en fin de rencontre. Donc si on a fait venir un mec qui est un bon joueur, attention, un demi-finaliste de la Coupe du Monde, pied gauche fantastique, pour jouer 5 minutes, est-ce que tu t'exposes pas plus de problèmes dans un vestiaire?
Mais en fait, c'est pas un projet, Stephen.
Mais le PSG, pour moi, c'est pas un problème de recrue au PSG, c'est pas un problème de niveau de joueur, c'est un problème de hiérarchie, c'est un problème d'équilibre de jeu. À la rigueur, qu'on prenne un défenseur central parce que on estime que Ramos c'est un peu cramé et que derrière c'est, mais je suis même pas sûr que tu prennes un défenseur, ça règle les problèmes des trois de devant, en fait. Pour moi, c'est le mercato du Paris Saint-Germain, je suis même pas sûr qu'il y avait besoin absolument de prendre des joueurs.
Ziyech, Vincent, toi qui travailles ton anglais brillamment depuis plusieurs jours, non, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle dans le jargon mercato un panic buy, c'est-à-dire que
s'il l'avait ciblé
depuis plusieurs semaines, on sait comment ça se passe aujourd'hui, on l'aurait su, c'est-à-dire que c'est que t'as pas réussi à faire ce que tu voulais,
tu le prends dernier moment,
c'est la panique
sur l'enthousiasme
dernier moment, c'est pas un projet à long terme. Ziyech, tu construis rien à Paris,
tu fais plaisir au mec en disant t'as pris le mec,
tu ne construis rien à Paris avec Ziyech, c'est-à-dire que c'est pas ton projet, c'est un joueur qui a déjà la trentaine, l'Europe ne se l'arrache pas, si c'est un très bon joueur. Bon, c'est la panique.
La faute de goût, Adrien, c'est que même pour faire plaisir, ça maintenant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait pas plaisir.
C'est plutôt la panique.
Vaut mieux être seul que mal accompagné.
Pas pour te dire que
Ziyech est un mauvais joueur, c'est un très bon joueur, mais il ne convient pas du tout à son groupe. Et lui, moi je veux bien, mais quand même l'essence même des joueurs. Tu peux prendre tout l'oseille que tu veux, Ziyech, il peut prendre de l'oseille partout. S'il joue jamais, ça va couiner, parce que je pense que Ziyech, il a une personnalité autre que Salamiana ou
Salamiana.
Sylvain, on prend nos 16. C'est comme le Stade Toulousain. Est-ce qu'ils accumulent les bons joueurs, le Stade Toulousain en rugby? Non,
ouais, mais pas du tout. Sylvain, au 32-16, supporter de l'OM. Ouais, salut Sylvain.
Oui, salut.
Alors, est-ce que ça va changer la saison de ton club, ce mercato? Unai, Malinovski, Vitinha?
Oui, bah, si Vitinha s'est confirmé, ce sera toujours un plus. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont réussi à pas perdre Guendouzi, même si on n'est pas à l'abri d'un dernier rebondissement dans les prochaines heures.
Bon, Guendouzi a eu 0 offre, hein, donc attention aussi aux saucisses. Hein.
Ouais, on en entend beaucoup, alors on sait jamais.
Ça pourrait, on a Colporte aussi, d'ailleurs.
Au tout dernier moment, ils peuvent nous faire un dernier coup de Trafalgar. Après, le principal, c'est ouais d'avoir réussi à garder cette ossature et puis d'être renforcé en attaque où on va pouvoir, en espérant que Vitinha soit la promesse qui a l'air d'être, qui soit aussi performant qu'il semble être. Ça serait un plus. Après, Malinovski, ouais, il s'est vite intégré dans le collectif. Je pense que c'est une bonne pioche et puis c'est un sacré joueur. Je pense que c'est une bonne affaire.
Après, c'est plus facile de s'intégrer à Marseille qui tourne bien. C'est toujours plus facile dans un club où t'as un bon collectif où ça tourne bien. D'ailleurs, Malinovski, ça a l'air quand même de vite faire ses premières plutôt pas mal que dans un club comme le PSG où ça tourne pas, où ça tourne toujours autour des stars, et là c'est quand même difficile de faire sa place, hein. Donc peut-être qu'à Marseille l'intégration va se faire plus rapidement et que ça va mener un plus, hein.
Ouais. Sylvain, merci.
Après, il faudrait pas qu'au bout de la première semaine c'est le risque.
Objectif 2024 pour Teddy Riner. Son adversaire numéro 1, c'est son corps, Vincent. On va l'écouter. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez appeler le 32-16.
Ça aussi, oui.
Pour répondre à cette question, Vincent est-il anti-Toulousain, oui ou non? Venez avec des arguments.
J'ai compris, quoi.
Nous exposer votre point de vue. Vous êtes sur RMC, c'est le Super Moscato Show.
Vous voulez plus que je fasse une entrée à Toulouse? J'ai compris. 15h27, le Super Moscato Show. On vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h31, le Super Moscato Show. On y revient, on mastique, on est avec le Stifounet, le Eric Dimeco. Adrien Aigouet, mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Dans une demi-heure, Vincent, nous allons parler du tournoi. L'Italie peut-elle de nouveau battre la France? Vincent, tu règles le problème sur RMC. On fera le point sur cette équipe d'Italie qui a battu en 2022 l'Australie et le Pays de Galles.
Je vais te dire un truc, je ne suis pas confiant.
Ah non, mais là,
c'est une tactique pour te rassurer,
je m'en sers pas de ça.
Non,
tactique pour me rassurer. Moi, je suis pas
tu es pas Pierrot, toi, hein.
Je suis pas comme Pierrot qui dit non, on va pas passer contre
Toulouse.
Je te dis un truc, je suis pas confiant du tout.
OK.
L'Italie s'est restructurée, derrière ils ont un bon ouvreur,
bon jeune
marche à la mêlée, derrière au centre il y a des bons mecs.
Non, mais
à l'arrière il y a Capuzzo est capable de dribbler le stade entier. Quand tu dis Messi, machin, c'est des mecs Mbappé qui dribblent le stade entier, Capuzzo il peut te dribbler tout le monde.
On en parle à 16h, Vincent règle le problème sur RMC, mais d'abord les Jeux de Paris 2024.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
C'est le retour de Teddy Riner, double champion olympique, 10 fois champion du monde de judo poids lourd, et il nous a confié ses doutes et ses interrogations avant les Jeux de Paris 2024. Ce week-end, il y a le tournoi de Paris. Ce tournoi, ce sera une étape. On va expliquer tout ça avec Maria Azé. Salut Maria.
Salut Pierre, salut Maria. Vincent. Allô.
Sa principale préoccupation, c'est de ne pas se blesser jusqu'à Paris, Teddy Riner.
Oui, Teddy Riner s'est confié tout sourire et longuement pour son grand retour à Paris après ses multiples blessures. Les mots sont forts.
La vérité, c'est que quand je monte sur un tapis, j'ai peur.
Dernière blessure en date, la cheville, fin août, le retour a été long et le décuple champion du monde a douté.
C'est jamais évident de revenir d'une blessure, surtout celle-ci où j'ai évité l'opération. Le doute, c'était si c'est ça, j'ai pas aux Jeux Olympiques dans cet état-là, c'est pas possible de faire judo comme ça.
Car dans la tête de Teddy Riner, c'est objectif Paris 2024.
Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour les Jeux. Parce que j'ai pas envie de me louper, parce que j'ai envie de réussir à la maison, parce que j'ai envie d'aller chercher une troisième médaille d'or olympique individuelle.
En tout cas, à l'entraînement hier, le judoka de temps de 3 ans semblait en forme. On l'a vu rapide et on l'a même vu attaquer, mais il reste prudent.
Aujourd'hui, c'est débloqué, je suis content, mais je fais attention, on continue à écouter le corps, quoi. L'expérience, elle est là. Et je me dis, le vieux, il est encore là. Et ça fait plaisir. Et c'est ce qui fait et qui donne envie de continuer.
Et après le tournoi de Paris ce week-end, on ne devrait plus voir Teddy Riner sur les tatamis avant les mondiaux au Qatar en mai prochain.
Alors, vieux, pas si vieux, parce qu'il a 33 ans. Il en aura juste 35 à Paris.
Il faut qu'on le
mette sur
la croix, lui, il faudrait un élévateur, hein, quand même.
Il mettra plusieurs, là.
Elle m'a dit tout, les Fenwick. Bip.
Donc, à cet âge-là, Vincent, il ne fait pas beaucoup de compètes.
Mais le problème,
c'est un sport traumatisant.
C'est sport, tu te savates tout le temps. C'est dur. Des luxations par-ci, des luxations par-là. Et puis les pieds, t'es pieds nus. Moi, je suis fragile.
Les pieds, tu crèves.
Un sport pieds nus, t'aurais gagné rien qu'en voyant tes pieds.
J'aurais mis les pieds comme à mes filles. J'aurais dit, si tu continues, tu vas avoir ton ongle comme ça. Le bon Dieu te punira.
C'est Yannick Noah qui aurait été bon judo pieds nus.
Ah ouais,
j'aurais été un joueur, Yannick.
Yannick aussi, s'il va bien, lui, quand même, quand il fait la musique pieds nus. Je supporte pas, moi, d'être pieds nus.
Ben oui, parce que tu n'as pas les plus beaux pieds de
ouais, tu as pas, ouais, tu as les petits petons.
Dégueulasse. Les Kempion me les a demandé plusieurs fois.
Tu aurais pu jouer dans Prise de Nice.
Je veux te dire, c'est traumatisant au niveau des pieds, des orteils.
Vincent, quand il va chez les pédicures, il le refuse.
Non, il veut m'amputer. Il veut m'amputer de deux pieds. Mais non, mais c'est. Ah, tu dis quoi aussi, il peut, il va falloir qu'il, voilà, il l'a dit, hein, il faut qu'il se protège, il faut qu'il fasse très attention.
Parce que Teddy à 100% physiquement, il y en a pas beaucoup sur la planète qui peuvent rivaliser. Donc,
il sait le problème, il sait. Plus tu montes dans l'âge, plus c'est dur d'être à 100%, il le sait. Donc, il faut qu'il bien sûr qu'il est fort comme un bœuf, il est technique, c'est un mec qui pue le judo, donc il faut qu'il fasse attention, parce qu'en même temps, il y a des mecs qui montent, il a déjà été battu, il avait jamais été, il y a de l'usure, hein. Puis il y a de l'usure dans le mental aussi, t'as parfois peut-être aussi rencontré des périodes où il a peut-être moins envie.
Oui, donc, il a dit hein, qu'il a failli arrêter.
2024, pour lui, c'est un truc extraordinaire. Ça finit sur des Jeux Olympiques, faire un triplé de médailles d'or chez lui. Ça va le motiver. Après, il faudra que le corps suive.
Nous dit Morgane Maury, notre spécialiste judo, il est un peu en dessous de 150 kilos, et c'est bien ses temps de passage à ce moment-là de la saison. Il n'y a pas de catastrophe, il n'est pas en avance, il n'est pas en retard, il est parfait.
Voilà. Imagine lui, t'arrives avec le salade au maïs, tu dis, on mange ça à midi, quand il te regarde.
Avec un morceau de pain, un petit morceau de pain.
Tu t'arraches une oreille, il la mange. En vinaigrette, une oreille, quand
on fait ça. Stephen, le physique de Teddy.
En fait, moi, ce qui m'interpelle dans le discours
qu'il a dit,
il dit j'ai peur maintenant
de la blessure,
alors que tu fais un sport de combat, c'est quand même compliqué de dire à tes adversaires que t'as peur de te blesser. Alors je comprends bien qu'il veut pas se blesser parce qu'il va être en forme pour Paris 2024. Le problème, c'est qu'aujourd'hui il a 33 ans et que Teddy fait plus énormément de combats et que souvent
j'ai même beaucoup fait hein.
Avant, il faisait quand même des
combien
tournois,
une centaine de combats officiels.
Un jour, alors là, je sais pas plus quand même, non.
Oui, ça doit être ça.
Ouais.
C'est beaucoup. Il a fait une série de 100 d'affilée, je crois.
100 victoires d'affilée.
110,
ça doit être.
Mais ça veut dire qu'il va se pointer là. Il y a les Coupes du Monde, championnat du monde à Doha dans 3 mois et demi. Il va se pointer sur le tatami à Paris 2024 sans beaucoup de références derrière lui. Et ça reste le mec à abattre, en fait. Ça reste le mec à abattre en poids lourd, Teddy Riner. C'est le mythe, les mecs.
Mais comme il a perdu finalement, il y a plus de série, il y a plus d'invincibilité. C'est plus très grave tout ça finalement.
Tu penses qu'il n'y arrive pas favori à 2024, c'est pas lui
qui sera favori. Mais pas comme étant l'icône.
En restant caché.
Il est à Tokyo.
Il n'y en a pas d'autres mecs quand même qui peuvent arriver.
Il y en aura, bien sûr.
Il y a toujours eu en fait. Tu n'es pas à l'abri des Japonais qui arrivent dans l'année là.
Morgane Maury.
Là-bas, ils ont des le judo, c'est le sport national. Tu as un mec qui peut arriver, qui a 17 ans, 18 ans, et qui peut commencer à casser la gueule à tout le monde à un an des jeux, hein. Donc, attention, hein.
Mais il faut qu'il gère comme un boxeur pour lourd. Voilà. Il faut qu'il se gère comme un boxeur pour lourd. Il faut qu'il ait des entraînements intensifs, il faut qu'il boxe peu, c'est-à-dire qu'il fasse du judo, qu'il fasse des combats très peu pour pas se blesser.
Ouais, et puis en avant, il faut la pratique.
Oui, mais à un moment donné, t'es obligé.
On est
arrivé à l'heure des choix. Le problème, il est là, c'est que tu peux pas tout faire là maintenant. Il peut pas tout faire parce qu'il faut qu'il se protège, il faut qu'il soit pas blessé, il faut qu'il ait et qu'il ait cette envie énorme, qu'il arrive très frais. Et il va le faire parce qu'il connaît son corps, il a de l'expérience, ça sert à ça. Là, il y a pas que des inconvénients, il y a aussi l'expérience. Cette expérience, c'est quelque chose de magnifique, surtout dans les sports de combat. Puis lui, quand même, s'il arrive en forme, je ne sais pas combien c'est son poids de corps, mais 140 kilos, s'il arrive en poids de forme à 140 kilos, avec des tétons qui pointent, des pecs comme ça, Pierrot, il peut manger la tête des mecs.
Tu vois, Eric.
C'est quoi la question?
Il n'y a pas de question, mais c'est sur le discours de Teddy. Quand il parle avant tout de son physique et de la peur de se blesser.
Mais bon, quand on finit notre carrière, on est tous dans la gestion. Généralement, l'avantage que tu as quand tu es vieux par rapport aux jeunes, c'est que tu es peut-être un petit peu moins fringant, mais tu connais ton corps, tu sais ce dont tu as besoin pour être performant. Tu sais même te préparer le nombre de jours qu'il te faut de préparation ou le jour le plus important dans une semaine. Parce que bon, le judo, c'est pas comme nous, tu as un rendez-vous par semaine, donc quand tu arrives à la fin de carrière, tu sais que tu as une journée où tu peux faire du bosser, puis après le reste, il faut que tu te reposes. Et donc lui, c'est pareil par rapport à ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Donc écoute, moi je pense qu'il faut lui faire confiance, et puis surtout,
D'après moi, il doit avoir une envie terrible de faire ses JO. Ah, et voilà. Et donc, du coup, il faudra pas non plus tirer d'enseignement de ce qui va se passer d'ici les JO, parce que d'après moi, il va avoir besoin d'un an et des poussières de préparation. Donc, tout ce qu'il va faire avant, ça va être pour être au top aux JO. Donc, ne tirons pas d'enseignement s'il se fait battre par un mec qui tombe de la lune sur une compétition où il est là juste pour s'entraîner finalement, quoi. Voilà. Donc, laissons-le faire. S'il y a bien un mec qui se maîtrise et qui maîtrise son corps et ses performances, c'est lui. Hein.
À Tokyo, il s'est fait attraper. Hein.
Oui, ouais, mais attends, plus ça va passer, plus il va se faire attraper.
Et plus les mecs, ils vont vouloir l'attraper parce qu'ils prennent le
coup. On aurait pu croire que c'était terminé après ça en individuel à Tokyo quand il tombe.
Par équipe,
il les jette tous en dehors du tatami. Il n'y a pas de souci. Hein. Il était tellement vexé qu'il était encore au niveau. Il a démonté tout le monde. 154 victoires d'affilée, son record de Guérinor.
C'est le record, ça.
Donc il y a 200 combats, non?
En top 14, moi j'ai fait France.
Rendez-vous dimanche pour le tournoi de Paris sur RMC.
C'est un grand
rendez-vous judo de la saison. Donc vous vous branchez sur RMC ce week-end.
Mais s'il gagne à Paris, c'est
l'équipe de France.
C'est le roi, c'est l'évêque de Notre-Dame de Paris.
Le pied rouge de l'après-midi sur RMC. Nous allons répondre à cette question. Vincent est-il anti-toulousain? Beaucoup le pensent à Toulouse depuis notre débat de la semaine dernière sur les pleurnicheuses de Toulousaine.
C'est toi qui l'as fait ça. Je vais te rembrouiller.
C'est moi qui ai choisi le débat, mais c'est toi qui as énervé les Toulousains.
Bon, après alors, il a toujours voulu aller là-bas et puis il a jamais pu, donc il est jamais.
Ça appelle au 32-16, on accueille Mickaël, infirmier à Toulouse. Salut Mickaël.
Bonjour messieurs, bonjour à tout le monde.
Question Vincent Moscato, est-il anti-Toulousain, oui ou non?
Bien sûr qu'il est anti-Toulousain, mais il y a plusieurs raisons qui sont extrêmement logiques à ça. La première, il est tarné. Les tarnés, ils n'ont jamais pu sortir sans souffler les Toulousains. Parce qu'ils sont à côté, c'est les gens de la ville qui ont réussi.
Voilà, c'est le paysan. Lui, c'est le paysan, lui.
Oui, mais les Aveyronnais, c'est les paysans. Mais eux, ils ont réussi à Paris. C'est les tarnés, ils ont réussi quoi? Ils ont deux Brennus et puis c'est tout. Ils n'ont rien réussi. La deuxième, c'est qu'il est rugbyman. Et le problème, c'est que les rugbyman tarnés, les meilleurs, le stade Toulousain les prenait. Josion, Dupont, ils ont joué au CO, on les a pris, ils étaient bons. Mais les moins bons, on les trempe pas, et Vincent, on l'a pas pris, donc forcément, il y a un peu les boules.
T'es obligé de s'expatrier, hein.
Il y a un peu les boules, là, c'est.
Tu sais quoi? Je te déteste.
Ça pique un peu. Et ensuite, le stade français, le stade français, il a réussi. Alors, moi, je me suis énervé quand j'étais à Ernest Vallon, qui venait nous gagner, ça m'a énervé. Aujourd'hui, le stade français, le stade toulousain est toujours au firmament. Peu moins, donc forcément qu'il n'aime pas Toulouse, mais on l'accueille toujours avec grand plaisir. Ah. Avec une barrière, bien entendu.
Bien sûr. Bien entendu.
À 45 euros la place, vous l'aimez toujours, vous.
Je l'ai vu il y a deux ans, je termine de rembourser mon crédit.
C'est si tu payes en carte, si tu payes en espèces, c'est moins cher.
C'est moins cher, ouais.
Il faut le savoir, c'est 45.
Je vais vous raconter une anecdote que j'ai croisé Vincent parce que je vous écoutais depuis toujours à Tarascon sur Ariège au restaurant Le Carré Rouge. Ça remonte à très longtemps. Tu es venu faire ton spectacle.
C'est vrai.
C'était le début de ce que Vincent appelait les post-cat. Il savait pas trop ce que c'était, il savait pas trop le dire non plus. Et donc, moi, j'écoutais le podcast à le midi en mangeant mon entrecôte de l'émission de la veille, parce que j'étais commercial à l'époque, et je vois Vincent qui était avec sa femme qui venait de faire son spectacle la veille. J'ai voulu lui dire bonjour, mais l'erreur, je voulais lui serrer la peluche, c'est que j'ai décidé de le faire à la caisse. Alors, je l'ai vu arriver, il a bien vu que je l'avais reconnu, je me suis chié dessus, parce que j'ai vu Shrek en vrai, je me suis chié dessus, je tiens à le dire. Et en plus, donc vu que je l'ai vu à la caisse, il m'a dit, tu viens m'inviter? Bon, du coup, j'ai eu peur, je suis parti.
Merci,
Mickaël.
Merci à vous.
Merci, Mickaël. Si tu veux passer une heure et demie sympathique et pas payer 45 euros, il y a Osiris qui passe à Orex le 25 mars. C'est beaucoup moins cher.
Je viendrai.
Vincent Moscato est-il anti-Toulousain? Vous appelez le 32-16 sur.
On n'est pas des escrocs, nous, quand même, Moscato.
Pour l'instant, apostrophe.
C'est la question moyenne. Pierrot, vous répondez oui. Vincent est anti-Toulousain pour vous à 80,1%. Oh, j'ai envie de dire, Vincent, que la messe est dite.
C'est un plébiscite.
Alors qu'il n'a fait que dire des vérités l'autre jour.
La culture pour les truffes.
Tu sais quoi, je réfléchissais entre Bègle et le stade français.
Ouais.
Je sais pas, est-ce que j'ai plus gagné le stade toulousain qu'ils m'ont gagné.
Oui, bien sûr.
15h44.
Casting pour réalisateur, c'est Guillaume Canet qui nous raconte son casting pour Astérix. Ça, c'est étonnant, Vincent. Apostrophe la culture pour les truffes.
15h44, le super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h48, le Super Moscato Show. On est sur RMC avec le Stifounet Brun, Eric Dimeco. C'est l'heure de la culture d'Adrien Gouet.
Jingle, nouveau jingle, mouvement social, Vincent, mobilisation.
RMC, c'est l'heure d'apostrophe dans le Super Moscato Show.
Et bien voilà, nous revendiquons. Nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons
Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire trop l'apéro là.
Magnifique, un gréviste, un manifestant interrogé par la télé en 1986 pendant les manifs de 86.
Le chimilibilique. Est-ce que le chimilibilique
incroyable.
Ouais, mais le chimilibilique, c'est un sketch. Lui, c'est PCMW.
En ce jour de revendication, Vincent, parfois on a du mal à trouver les mots parce qu'ils ont peut-être délégué quelqu'un qui avait zappé
le
track.
Et puis le mec, il.
La télé, tu passes à la télé.
Ouais, puis il avait dû faire l'apéro.
Il est de Toulouse à Car. Pontel, le bac. Alors Jean-Paul Sartre.
Oui, c'est Jean-Paul Sartre.
C'était du Pontel, ça, non ?
C'était un Toulousain, peut-être, Vincent, tu nous le disais, là. Oui, c'était un Toulousain, certainement.
Ça, oh, probablement, quoi.
C'est pas du tout l'accent, je l'ai pas reconnu.
Non. Attention, c'est pas loin du Sud-Ouest, en tout cas. Un peu truffe, la culture pour les truffes, parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Il y a les mouvements sociaux, et puis il y a le cinéma aussi. Demain, sortie événement annoncé du film français Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu. Aujourd'hui, coulisses assez étonnantes sur la façon dont Guillaume Canet a été choisi pour réaliser ce film. Moi, naïvement, je pensais qu'il décidait de le faire, puis il le faisait, le film Astérix. Ouais. Il monte le projet. Eh ben, pas du tout. C'est une fonction très prisée de réaliser les Astérix. Il y a des droits. Il a raconté tout le cheminement dans l'émission de Pierre Lescure sur France 2 qui s'appelle Beau Geste. Un hommage à ta carrière également, je pense, Vincent.
Probablement.
Alors, il explique. Première étape, c'est Hachette, le groupe Hachette qui détient les droits, qui organise un appel d'offres entre producteurs. Il y a plein de producteurs qui écrivent des projets, qui contactent Hachette. C'est un appel d'offres. Là, c'est Johan Bayada, un producteur qui obtient les droits. Lui-même contacte le producteur de Guillaume Canet qui s'appelle Alain Attal. Mais Guillaume Canet explique, rien n'est fait à ce moment-là. En fait, tu gagnes juste l'accès à un casting qui met en concurrence plein de producteurs, plein de réalisateurs.
Ouais.
Donc ils font un casting entre réalisateurs pour avoir l'autorisation de réaliser et de conceptualiser Astérix. Alors attention, c'est Hachette qui à la fin a le dernier mot. Et sur France 2, Canet explique les critères très exigeants pour juste avoir accès au casting. Quel CV il fallait avoir de réalisateur pour prétendre réaliser Astérix après ses concurrents.
Bien sûr.
Et là, il y a eu un casting de réalisateurs. Donc une fois j'étais pris, une fois j'étais pas pris, une fois j'étais pris, puis à un moment j'aurais dit écoutez.
Mais ne pouvaient se présenter parmi les réalisateurs que ceux qui remplissaient, qui cochaient certaines cases.
Ouais, c'était assez fou en fait. Il fallait avoir gagné un César, avoir fait plus de 2 millions d'entrées, je crois, 3 millions d'entrées, avoir fait un film en langue anglaise. Et voilà.
Et voilà. Et d'ailleurs, et tu te battais après, donc t'as du Luc Besson.
Ça s'est joué à deux, trois critères. Moi, j'étais pas loin.
Denis a pas été pris, non?
Alors, le magazine Première a quand même vérifié s'il avait les bons critères, parce qu'on sait jamais.
Ouais.
Il a remporté le César de meilleur réalisateur en 2007 pour Ne le dis à personne. Il a réalisé pour ce film 3 millions de spectateurs. Enfin, il a réalisé ce score-là.
Bon
pour Les Petits Mouchoirs, 5,4 millions d'entrées également.
Les Petits Mouchoirs, c'était.
Et il a réalisé, parce que je me suis dit, il a réalisé un film en anglais, lui.
Oui, je m'en rappelle.
Eh bien, oui. En 2013, alors ça fait 240 000 entrées, c'était pas un grand succès.
Non,
Blood Pays, c'était tourné en anglais, c'est sur les mafieux dans les années 70 à New York.
C'était pas nul, moi je sais pas mal, il a pas marché ce film.
Je
l'ai vu. Oui.
Blood Pays.
Ah, mais je me souviens très bien, c'était une bagnole. La fille, c'était une bagnole, c'était plutôt bien.
La fille, c'était une bagnole.
La fille, c'était une bagnole.
Ah,
excusez-moi, j'ai mal prononcé.
Et en fait, c'est.
Il faut mettre le solotone,
monsieur te dit.
C'est la première fois que j'entends qu'il y a un casting entre réalisateurs. C'était.
Alors, je crois que c'est méthode américaine. Tu sais qu'aux États-Unis, le réalisateur, c'est un salarié.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le producteur, il dit toi, tu dégages
américaine.
Au milieu du film.
Il y a des mecs qui ont fait dégager plusieurs fois.
Mais souvent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le cas de finale.
Denis, il a fait le montage. Sur Astérix, il a fait 4 fois.
Mais pas dans la première semaine. Pas la première semaine, ça n'a pas trop marché.
À l'américaine.
Un peu à l'américaine, ouais, c'est ça. Il faut des critères, il faut avoir fait des entrées, avoir peut-être des Césars, ça n'est pas le film.
Et donc, au milieu de 100% bio, il n'y a pas un qui a dit on va changer de réalisateur. Ça n'aurait pas vu valider.
Non, parce que je pense que c'était une création de à la base de Guillaume Canet. Je pense qu'ils avaient écrit tout ça, ce qu'ils avaient scénarisé. J'ai pas l'impression.
C'est... Non, sont les producteurs qui écrivent le projet.
D'accord, ils avaient le scénario et ils ont demandé le
temps. Et après, c'est, ça, c'est mal américain. Concurrence souvent, entre réalisateurs.
Souvent, en France, c'est quand même le metteur en scène qui écrit son scénario et qui réalise. C'est un peu notre, comme de notre émission, c'est en Amérique.
Étonnant, non, quand même. C'est, voilà, bravo, c'est
ça. On a des producteurs qui écrivent un script pour que ça marche.
Pour que ça marche.
Commercial avant tout.
On le suit jamais.
On a des mauvais réalisateurs, quand même. Mais bon,
j'ai retrouvé le Guillaume Canet. C'est Blood Ties, ça tu dis Blood Ties.
Blood Ties. Moi je suis comme Vincent. Oui. Je pars de loin en anglais, moi aussi comme Vincent. Je vais réviser en anglais.
Never ever.
A café and an orange juice. An orange juice and a café.
Le blond, je m'occupe de toi. Là, ça sonne dans la récréation, sonne dans 3 minutes, je m'occupe de toi.
Je vais aller boire du coup un café. Sans transition. La suite de notre feuilleton, enfin leur feuilleton, c'est leur feuilleton. J'ai écouté les grandes gueules ce matin, Marshall Trechot, 9h midi, sur RMC, du lundi au vendredi. Vous connaissez bien Bruno Poncet.
Ah oui.
Le cheminot des grandes gueules, finalement. Cheminot.
Ouais, aujourd'hui, ce matin, il s'est chauffé, ouais.
Aujourd'hui, participe à l'émission parce qu'il ne savait pas, du coup. Il est en grève. Habitué du Super Moscato Show grâce à ses expressions. Souvenez-vous.
Non, laisse-moi finir. Pour changer la société. Et pas uniquement les réformes des retraites, qui est vraiment la goutte d'huile qui va faire péter le feu là-dedans. Ah. Bah, Mourad et Marianne l'ont bien dit. Enfin, aujourd'hui, dans une période où les gens, ils ont tellement d'autres sujets d'inquiétude que ça va être la goutte d'huile qui va faire déborder le feu.
Oui, c'est obligé. Voilà. Grâce à ce qu'on appelle ces Moscars, il est devenu un habitué du Moscato Show. On s'est gentiment moqué de lui. Il aime bien l'huile d'olive, peut-être, puisqu'il met de l'huile partout. Bah oui. Début des GG ce matin, 9h03. Tu t'es forcément à l'écoute, Eric. On est sur RMC.
Et pardon, mais Bruno, que fais-tu avec une bouteille d'huile d'olive sur la table?
Et là, c'est un cadeau pour le Moscato Show, parce que depuis quelques jours, ils sont en boucle sur moi, parce que soi-disant, un jour, j'ai créé une expression, ils pensent que j'ai un peu glissé, quoi, que j'ai dérapé. J'ai dit que c'était la goutte d'huile qui devait déborder le vase.
Non, c'est pas ça.
C'est mignon.
Oui, c'est mignon, mais bon, moi, c'était calculé. Parce que,
et
bon,
depuis, ils se foutent de ta gueule, en fait.
Bah, ouais, c'est ça.
Il faut le dire clairement.
C'est ça. Et donc, je ramène une bouteille d'huile parce qu'ils ont dit que j'avais peut-être des billes dans une boîte de production d'huile d'olive.
Donc, tu leur fais un cadeau.
J'en fais un cadeau, ouais, comme ça. Et peut-être, ça mettra un peu d'huile dans leur rouage de leur émission qui commence à patiner derrière nous. Parce que,
Excellent. Ouais. Mmh. Excellent. C'est vrai que ça patine, hein, le Moscato.
Ouais. Ouais.
En podcast, en tout cas, en nombre de podcasts.
En podcast, bien sûr. Et donc, midi 2, ils terminent leur émission. Ce matin, Pierrot, on voit arriver au bureau Bruno Poncet, qui nous a parlé.
Ah, c'est une bouteille. Il paraît qu'il est arrivé aussi avec un tube de vaseline, on n'a pas compris pourquoi.
Ce qui est bien, c'est que Pierrot l'a reconnu tout de suite. Mais c'est Bruno.
Allez, tu écoutes Gigi à la radio, je ne regarde pas la télé.
Hein, c'est un gars qui a une casquette, Bruno Poncet.
Avec une moustache. Boucle d'oreille, non? Non, mais c'est vrai que moi je regarde.
Genre, il est cartographe avec une boucle d'oreille.
On est un peu comme ça.
Écoutez, ce matin, la suite de la séquence, puisqu'il y a Alain Marchal qui a décidé de te terminer, Vincent, dans la séquence.
C'est vrai.
Avec Barbara Lefebvre, il s'y met à deux. Un mot en plus, monsieur Marchal.
Podcast. Et en plus, c'est de l'huile bio.
Oui, c'est ça, oui.
Mais ça, ils n'ont pas l'habitude, le bio.
Non, mais je pense pas. Non, j'ai pas l'impression, non.
Je sais même pas s'ils mettent de l'huile d'olive sur un tomate mozzarella.
Ah bah, tu sais, c'est des sangliers.
C'est pour ça.
Ils mangent à même le sol, n'est-ce pas?
C'est pour ça que je le dis.
Du Moscato Show.
Est-ce qu'on va avoir droit à un petit tirage d'oreille un jour?
Écoute-moi, tu sais laquelle huile je vais me servir pour eux? De la motule. Et tu sais ce qu'on fait avec la motule?
Le rugby, l'Italie peut-elle de nouveau battre la France? On parle du tournoi et Vincent règle le problème. Vincent, on va faire appel à tes racines italiennes.
Oh là, m'en parle pas.
Il y a la question moyenne, Pierrot. Vincent Moscato est-il anti-toulousain? Ça monte, monsieur Moscato.
Ah ouais.
Nous en sommes à 82%, oui.
Mais après, si on atteint un chiffre record, par exemple 90-95%,
il faudra
peut-être vous demander à Toulouse qui n'est pas anti-toulousain et surtout pourquoi.
Alors, Titback, avec le hashtag RMC Live, nous dit Vincent est anti-toulousain à la façon dont ceux qui échouent à Polytechnique deviennent anti-polytechniciens. Jalousie, aigreur, perfidie. C'est le complexe des non-sachants contre les sachants.
Titback
est vraiment toulousain.
Il est toulousain, mais il habite à Marseille. Il va se promener dans les calanques tous les jours.
Il a tous les défauts, lui.
Allez, à tout de suite pour le rugby. Vous êtes sur RMC.
15h57, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.